Voilà, alors l'abbé Dominique et Jean m'ont demandé de parler un peu de ce qu'on appelle le kyrialé. Parce que le kyrialé, c'est donc les parties qui reviennent dans la messe et que l'on chante, qui ne varient pas. Hein? Donc en gros, le kyrialé, c'est Kyrie, Gloria, Alléluia, voilà, Sanctus, Agnus. Voilà, ce sont les parties qui sont fixes dans la messe toujours. Voilà. En guise d'introduction, on peut faire un très bref historique de la liturgie. Comme disait l'abbé Dominique, jusqu'au IVe siècle, il y a une forme d'improvisation de la liturgie, mais malgré tout selon un schéma quand même prédéterminé. Donc on retrouve par exemple dans un écrit ancien qui s'appelle la Didaquée, on retrouve la structure fondamentale de la messe. Qu'est-ce qu'il y a comme structure fondamentale de la messe? On demande pardon. On lit des textes de l'Écriture sainte, il y a un commentaire de ces textes, puis après on célèbre la messe, l'Eucharistie, et puis la communion, bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, ce schéma, grosso modo, il est installé dès le début. D'ailleurs, c'est intéressant, si on lit le passage des disciples d'Emmaüs, c'est un peu la structure de la messe, en fait. Pour lire, c'est assez amusant. Des disciples d'Emmaüs, hein, dans Saint-Luc, la fin des évangiles selon Saint-Luc. Donc, on retrouve un peu cette structure de la messe, en fait, où on rappelle l'écriture et puis on interprète l'écriture. Là, ils ont la chance parce qu'ils ont le vrai interprète de l'écriture qui est Jésus, le boss. Et puis ensuite, ils célèbrent la messe et c'est au moment de la communion, du coup, on peut l'imaginer comme ça, j'extrapole un peu, qu'ils reconnaissent Jésus. Voilà. Et c'est très beau parce qu'au moment où ils reconnaissent Jésus, Jésus s'efface et il ne reste plus que la présence réelle de la communion, si toutefois c'est la messe. Voilà. Donc jusqu'au IVe siècle, comme disait l'abbé Dominique, jusqu'au moment où il y a la paix, la liturgie, c'est un peu un tronc commun de tout le monde, plus ou moins, quoique c'est discuté, mais à la louche. Hein. Il y a sûrement déjà, selon les régions, des choses qui commencent à se spécifier, et selon les langues et les cultures. Mais en gros, disons que c'est à peu près pareil, il y a une forme d'improvisation selon un schéma plus ou moins global. Et puis peu à peu, les choses se précisent, et notamment en Occident, on a des traces, par exemple, des prières qu'on a encore aujourd'hui, notamment le canon romain, la prière eucharistique numéro 1. Saint Ambroise le redonne pratiquement tel quel dans un de ses écrits qui s'appelle le De Sacramentis. Donc on voit qu'il y a déjà des choses qui sont fixées. Saint Ambroise, c'est la fin, milieu et fin du IVe siècle. Puis peu à peu, dans l'Occident, on va connaître, notamment avec l'Empire, avec Pépin le Bref et Charlemagne, un désir d'unification liturgique. Et pour ce faire, Pépin le Bref demande au pape ses livres liturgiques pour, dans son empire, unifier la liturgie. La liturgie, donc, latine à ce moment-là, puisque nous sommes en Occident. Voilà. Par la suite, c'est un très grand trait, hein, ce que je vous dis, avec l'éclatement de l'Empire, la liturgie aussi va avoir tendance à s'éclater et à se nationaliser ou se régionaliser, selon. Et donc, avec des traditions liturgiques ou des textes qui n'auront pas tellement de fondement dans ce qui vient de la tradition plus ancienne, apostolique. C'est pourquoi le Concile de Trente et le pape Saint-Pie V, à sa suite, vont vouloir faire une réforme de la liturgie qui va tendre à unifier la liturgie occidentale, donc la liturgie latine. Mais en conservant les spécificités de ceux qui avaient plus de 200 ans d'existence. Et donc, c'est ainsi que le missel dit de Saint-Pie V, en fait, a opéré autour de la liturgie romaine une unification de la liturgie en Occident. Et donc, pour nous, c'est important de dire, ben, on se situe dans cette tradition, dans ce qu'on a recueilli des anciens, et il y a un certain nombre de prières fondamentales, notamment celles dont je vais vous parler, qui datent toutes des origines, pratiquement. Voilà, et qui ont traversé donc ces moments où il y a eu des éléments plus ou moins flottants, et certains donc qui ont été gardés, mais aussi beaucoup qui ont été éliminés au moment de cette unité liturgique. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire en guise d'introduction, c'est que il faut bien distinguer dans notre pratique chrétienne ce qu'on appelle la prière personnelle et la prière liturgique. Deux choses très différentes. La prière personnelle, grande liberté des enfants de Dieu. Et dans notre prière personnelle, on peut se laisser inspirer par l'Esprit Saint, louer le Seigneur, l'implorer, se mettre à genoux, debout, coucher, faire silence, louer le Seigneur. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est la prière personnelle, voilà, selon les moments et comment on le sent. Il y a une très grande liberté. En revanche, la prière liturgique, on sent bien que ce n'est pas notre prière, elle ne nous appartient pas. Nous nous unissons à la prière de l'Église, qui est codifiée par l'Église et par la tradition de l'Église, pas n'importe comment. Et donc, cette prière liturgique, la messe, et puis plus largement la messe, l'office, donc nous joignons, nous entrons dans cette prière de l'Église, hein, qui est la prière de l'épouse du Christ, mais aussi qui est la prière du Christ en tant qu'il est tête de l'Église, et nous faisons monter vers le Père avec toute l'Église, avec le corps, le Totus Christus, comme dirait saint Augustin, le Christ total, tête et corps, faisons monter par le Christ notre prière vers Dieu le Père. Voilà. Et donc, c'est pourquoi cette prière liturgique, c'est important pour nous d'y entrer avec cette obéissance du cœur et le fait de recevoir comme un cadeau vraiment ce que la grande tradition de l'Église nous a transmis pour nous aider à entrer dans cette prière du corps tout entier et qui dépasse simplement notre communauté de paroissiale, mais quand on sait tous les dimanches par exemple dans le monde entier ce sont les mêmes textes, hein, en chinois, en hindou ou en hindi plutôt, en hindi ou en ce que vous voulez comme langue, ou en anglais ou en espagnol, et ce sont les mêmes textes. Et donc c'est aussi entrer dans la prière du corps tout entier, qu'est l'Église dispersée dans le monde. Et c'est beau de penser que justement, ben, nous faisons tous un seul corps et nous prions tous dans le même sens, dans cette unité autour du Seigneur Jésus, dans la même Église. Voilà. Alors, pour en venir donc à nos différentes pièces du Kyrialé. Donc le premier que nous trouvons, c'est donc le Kyrie. Vous savez ce que veut dire Kyrie, tout le monde? Non? Ou c'est quoi comme langue? Du grec, voilà. Donc Kyrie, c'est Seigneur. En grec, curieux. Alors c'est un mot qui revient tout le temps dans l'Écriture sainte. Alors, mais il vient déjà dans l'Ancien Testament. Donc Jean va nous lire, par exemple, le psaume 50.
Il va le lire en grec.
Il va le lire en grec, même en hébreu. 50, verset 3. Et nous allons voir comment ces invocations, elles sont déjà présentes dans l'Ancien Testament. Alors c'est peut-être 51, parce que ça dépend des psaumes.
Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché.
Voilà. Pitié pour moi, mon Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Voilà. Kyrie eleison, c'est ça que nous disons en grec. Et ça, c'est le psaume de pénitence de David après son adultère avec Bethsabée. David demande pardon au Seigneur pour cette faute, hein, parce que Nathan lui a tiré les oreilles. Le prophète, c'est très beau ce passage, vous ne connaissez pas. Et voilà, lui disant, tu as péché gravement contre le Seigneur, lui fait prendre conscience de sa faute. Et David, qui était un bon gros pécheur, mais quelqu'un qui était très humble, eh bien, il a vraiment su demander pardon au Seigneur dans son cœur. C'est pour ça que j'ai une certaine affection pour le roi David, parce que quand il pêche carrément, mais au moins, il est vraiment humble, et c'est ça qui fait aussi sa grandeur et sa beauté, parce que c'est un homme, il reconnaît ses torts, et il s'est vraiment demandé pardon au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est peut-être ce qui manque dans notre monde, c'est qu'on s'auto-justifie trop. Vous voyez ? Voilà. Et ce qui est important, bah, qu'on pêche, on pêche, on est tous fait pareil, mais il faut demander pardon, Seigneur. Il faut savoir reconnaître, bah, Seigneur, là, c'est pas bien, voilà, et je le reconnais, je demande pardon, et je demande la grâce de pouvoir changer mon cœur. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est par exemple...
On a
le
droit à un mari alors qu'ils sont en chat.
Alors, Matthieu 9, 27. Alors, dans l'Évangile, on va trouver plein de... Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a trop, mais voilà. Donc, des passages de l'Évangile où on retrouve cette invocation, justement, Seigneur. Seigneur, prends pitié.
Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient... Aie pitié de nous, fils de David.
Voilà. Et 15, 22, tu veux, pour donner un autre exemple, après, il y en a beaucoup. Saint Matthieu aussi.
Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Voilà. Et donc, dans ce crier, nous reprenons ces invocations de l'Évangile. Et nous mettons comme donc la cananéenne, comme les deux aveugles, comme l'aveugle de Jéricho, comme voilà, plein d'autres. Nous nous mettons dans cette même disposition d'esprit. Le Seigneur vient, le Seigneur va venir dans la Sainte Eucharistie, se rend présent au milieu de nous et nous l'invoquons, nous demandons pardon pour nos péchés. Nous mettons dans cette disposition de cœur pénitent et d'humilité pour demander au Seigneur que son pardon nous guérisse. Donc ce texte, Kyrie eleison, vous avez remarqué que c'est du grec et non pas du latin. Et même dans la messe en latin, c'est toujours du grec. Voilà. Et c'est intéressant parce que ce grec, ce texte du Kyrie, il est présent dans presque tous les rites liturgiques, pratiquement. Je ne sais pas, j'ai pas fait c'est pas exhaustif mon gars, mais pratiquement, il est dans tous les rites. Vous savez combien il y a de rites dans l'Église catholique pour dire la messe ? Allez, faites vos jeux. Combien ?
Autant que de prêtres.
Ah non. Combien ? Il y a 23 rites dans l'Église catholique. Hey, quand même. 23 rites pour dire la même messe.
Et t'as compté les anglicans ? Qui sont devenus catholiques.
Mais je ne sais pas si dans les 23, on compte les rites dominicains, le rite lyonnais, tout ça. Je ne suis pas sûr. Qui sont des variantes du rite latin. Mais vous voyez, il y a par exemple le rite maronite, le rite gréco-catholique, les byzantins, les rites syriaques, les rites chaldéens, les rites syro-malabar, syro-malankar, etc., etc. Arméniens, coptes.
Tous les rites orthodoxes.
Tous les rites orientaux.
Tous les rites orthodoxes ont une branche catholique. Il n'y a pas un rite orthodoxe qui n'a pas un minimum de communauté catholique rattachée à Rome. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, dans l'Église catholique, déjà, toute la ritualité, la diversité rituelle voilà. existe dans l'Église catholique.
Puisque, par exemple, les coptes catholiques et les coptes dits orthodoxes sont, en fait, ont la même manière de dire la messe. C'est la même tradition liturgique. Et donc, c'est toujours le pendant catholique dans tous les rites orientaux. Et c'est intéressant pour nous, c'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a 23 rites différents pour célébrer la messe. C'est intéressant. Et dans tous ces rites, pratiquement, on retrouve cette invocation pénitentielle du Kyrie, et souvent on le retrouve en grec, quel que soit le rite. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est tellement quelque chose d'ancien, qui appartenait sûrement à la liturgie primitive, que c'est resté tel quel et en grec, puisque vous savez qu'à l'origine... Le grec était la langue commune, donc ce qu'on appelait la koiné d'ailleurs, hein, autour de la Méditerranée, et c'est ainsi que donc le grec était la langue, d'échange, et du coup la liturgie primitive était sûrement en grande partie en grec. Donc c'est intéressant de se dire cette formulation de supplication de pénitence appartenait sûrement au substrat primitif de la liturgie et qui est resté donc dans les différents rites. Voilà. Vous avez remarqué aussi que il y a une structure trinitaire, on invoque trois fois. Hein. Alors il y a une petite variante entre la messe donc en forme extraordinaire, et la messe de Paul VI, puisque qu'en forme extraordinaire, on dit trois fois Kyrie, trois fois Christe, trois fois Kyrie. Il sonne à chaque fois. Et en messe Paul VI, c'est deux fois, deux fois, deux fois. Mais on garde cette structure trinitaire. La première fois en invoquant le Père, la deuxième fois en invoquant le Fils, Christe, la troisième fois en invoquant l'Esprit Saint. Et donc cette structure trinitaire, elle est importante et elle est belle à conserver. Ce Kyrie, donc dans, on le dit toujours en guise de formule pénitentielle, sauf si on fait l'Asperges, pendant le temps pascal notamment. Mais regarde les spécialistes, parce qu'ils sont plus spécialistes que moi, M. le curé. Donc voilà. Et, mais ce Kyrie, on le garde toujours, soit en forme de missel de Paul VI, soit il y a trois façons de faire le rite pénitentiel. Alors, première façon, on dit le « Je confesse à Dieu », le prêtre dit « Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde », etc. Et « Kyrie, Kyrie, Christe, Christe, Kyrie, Kyrie ». Simple. D'accord ? Deuxième façon, on prend des intercessions avant le Kyrie, une intercession avant le Christe, une intercession avant le Kyrie. Dans ce cas, on ne dit pas le « Je confesse à Dieu », et après, le prêtre conclut « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde ». Ça va ? Et troisième façon qu'on connaît moins, qu'on prend moins souvent, Seigneur, on dit « Seigneur, accorde-nous ton pardon ». Voilà. Je n'ai même plus la réponse.
Nous avons péché contre toi.
Nous avons péché contre toi. Voilà. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Et après, Kyrie, Christe, Kyrie. Sans phrase. Okay, vous voyez, c'est les trois manières dont on peut faire le rite pénitentiel en Paul VI. Si on prend la phrase d'intercession, on ne prend pas le « Je confesse à Dieu ». Ça, normalement, c'est comme ça, en principe.
Le « Je confesse à Dieu », c'est le plus traditionnel, dans voilà. Le sens où c'est ce qui a été introduit après. Les deux autres formes ont été introduites a posteriori lors de la réforme Paul VI. Et donc, les intercessions, c'est bon, parce que ça existait, donc ça a été retrouvé, ça a été réintroduit. Et puis sinon, l'autre formule que tu as dit, là, c'est d'origine gallicane, en fait. C'est la liturgie de nos régions qui a été reprise. Donc c'est l'origine des messes.
Je sais pas.
Puis après, il y a l'aspersion, donc pour le dimanche seulement, jour de résurrection. On peut remplacer
le rite pénitentiel.
Le rite pénitentiel par le rite de l'aspersion.
Spécialement en temps de
Pâques. Seulement le dimanche.
Et spécialement en temps de Pâques.
Et là,
il n'y
a pas de
Kyrie. Là,
il n'y
a pas de Kyrie.
Oui.
C'est le seul cas où il n'y a pas de Kyrie.
Oui, c'est ça. En forme extraordinaire, on prend toujours le « Je confesse à Dieu » et « Trois Kyrie, trois Christe, trois Kyrie ». Mais si on fait l'aspersion, on le fait avant la messe, qu'on fait le dimanche. Voilà, petite nuance. Voilà. Ça va sur le Kyrie ? Voilà. Alors, attaquons le Gloria. Alors, le Gloria, c'est une prière très ancienne qui était chantée comme telle déjà au IVe siècle en Orient. C'est intéressant. C'est ancien. Et elle est apparue en Occident vers le 5e, 6e siècle, autour de ces eaux-là. La première phrase, vous la connaissez, c'est Luc 2, 14.
Et Jean... Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes objets de sa complaisance.
Voilà, ou de bonne volonté, voilà. Donc il y a, ça, c'est histoire de traduction. Mais en tout cas, donc, c'est la salutation des anges, enfin l'exaltation des anges.
Devant... Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant gloire à Dieu.
Voilà, ils apparaissent aux bergers. Donc ça nous rappelle le temps de Noël. Et donc l'hymne du Gloria est une hymne, parenthèse, un hymne national, mais une hymne liturgique. Voilà. Hymne, ça, c'est soit masculin, soit féminin. Quand c'est liturgique, c'est féminin. On dit une hymne. Voilà. Ferme la parenthèse. Voilà. Et donc. L'hymne, le Gloria, donc, est une hymne de louange au Dieu trinitaire. C'est ça. Et donc, si on reprend les détails, on voit donc cette louange trinitaire qui est forcément décomposée en trois. Donc, la première partie qui s'adresse au Père. Je parle après la phrase Gloria in excelsis Deo. Donc, louange, on donne louange et honneur au Père, Et c'est une influence orientale, notamment byzantine. C'était une forme de piété grecque. C'était un peu calqué, guillemets, sur les louanges attribuées à l'empereur de Byzance à l'époque. Donc ça reprend un peu cette idée, sauf qu'on l'adresse au souverain des souverains. Voilà. Le deuxième aspect, donc, c'est évidemment la louange adressée au Fils, dont on reconnaît la divinité. Hein, je reprenne le texte.
Ça serait bien, ouais, tu relises les parties. Ça.
Voilà, oui, peut-être ce sera plus clair. Voilà. Gloire à Dieu, donc au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté, aux hommes qu'il aime. Nous te louons. Nous te bénissons, tout ça s'adressait au Père, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Tout ça, une louange adressée au Père. Deuxième partie, Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Donc on rappelle donc, le Jésus engendré de toute éternité du Père. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Déjà, on introduit la dimension de salut en se présentant Jésus comme l'agneau, fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Bon. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Vous voyez, ça nous rappelle la nature divine du Seigneur, égal au Père, fils du Père, égal au Père, et en même temps aussi sa mission salvatrice. Dieu est venu parmi nous. Car tu es le seul saint, tu es le seul Seigneur, toi le seul Très-Haut, Jésus-Christ. Seul saint, seul Seigneur, le seul Très-Haut. Ça, c'est affirmé de manière claire et solennelle que Jésus est Dieu à l'égal du Père et de l'Esprit-Saint. Et puis, on passe très vite sur le Saint-Esprit. Enfin, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, c'est... pourquoi est-ce qu'on passe rapidement vers le Saint-Esprit? Je n'ai pas trouvé d'explication particulière. J'ai ma petite explication à moi, mais je ne sais pas si elle est valable. C'est que je pense que si ça date du 4e siècle, probablement que cette hymne a été faite avant le Concile de Constantinople, et c'est seulement au Concile de Constantinople en 380 qu'on a développé toute la dimension, donc la théologie sur l'Esprit-Saint, qui affirmait aussi très clairement sa divinité. Mais... explication. Moi, je
ne sais pas si,
elle est valable.
Pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Hein.
C'est possible. Voilà. Donc, on célèbre dans la liturgie la gloire de Dieu, et il y a une forme. Toute la liturgie est une sorte d'anticipation du ciel. Et c'est pour ça qu'on loue le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fera au ciel? On louera le Seigneur. On va passer toute notre éternité à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Vous voyez? Ça va être ça, notre ciel. Et la liturgie, tout particulièrement la messe, une anticipation du ciel. C'est pour ça que le prêtre, il est habillé en blanc. Tout le monde pourrait être habillé en blanc, en aube, puisque c'est notre habit de baptisé et notre habit céleste. Puisque saint Jean dit dans l'Apocalypse, je vis les saints qui étaient vêtus de longues robes blanches. C'est pour ça qu'on met une robe au baptême. Et donc, en fait, ce n'est pas l'habit du prêtre, l'aube. D'ailleurs, les enfants de cœur peuvent être en aube, mais tout le monde pourrait être en aube à la limite. Ce qui est spécifique au prêtre, bien sûr, c'est l'étole et la chasuble. Mais l'aube, le prêtre la met toujours systématiquement pour aussi rappeler aux fidèles que la messe que l'on vit, la liturgie que l'on vit, elle est une anticipation du ciel. Elle est une anticipation de ce que nous sommes appelés à vivre un jour au ciel, dans la louange éternelle de Dieu. Voilà. Et en même temps... on n'oublie pas la terre quand même, parce qu'on demande cette paix pour la terre, une paix aux bonnes hommes de bonne volonté, et on demande au Seigneur son intercession pour être délivré du péché, toi qui enlèves le péché du monde, voilà. Et pour que le Seigneur nous accorde, justement, en enlevant l'obstacle qui nous empêche d'être unis au Seigneur, nous accorde d'être toujours plus unis à notre Seigneur. Déjà ici-bas, en vue du ciel. Voilà. Vous voyez cet hymne de Gloria, très belle, et donc c'est pourquoi on ne la remplace pas par une chansonnette, en clair. Voilà, c'est important. Voilà. On la chante seulement aux fêtes et aux solennités. Donc tout ce qui est mémoire facultative, même les mémoires obligatoires de semaine, on ne la chante pas. Voilà. On la chante qu'aux fêtes et aux solennités. Et dimanche, oui.
Dimanche, qui est une solennité.
Oui, voilà, dimanche, une solennité. Merci Jean de préciser. Voilà. Ça va sur le Gloria ? Bon. Après, troisième, l'Alléluia. Alors, le mot d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Alléluia ? Oui, tout simplement. Hein, ça vient d'un mot, de mot hébreu, Hallou, et puis après, Yah, qui est un diminutif de Yahvé. Donc, voilà, louange à Dieu, tout simplement. Et cet Alléluia, Jean va nous lire Apocalypse 19, 1, 6. Tu avais les psaumes du Hallel, là hein. 1-6. C'est, on va l'entendre, le chant des noces éternelles de l'agneau divin avec l'humanité. C'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse, les noces mystiques du Christ et les épousailles avec l'Église. Et cet Alléluia, bien, il nous fait entrer aussi dans ce mouvement qui nous conduit justement à cette consommation définitive dans l'éternité des noces de l'Église et du Christ et de son époux.
Après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait « Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. » Puis ils reprirent « Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant « Amen, Alléluia. » Puis une voix partit du trône. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez et vous qui le craignez, les petits et les grands. Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres, on clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout.
Voilà, donc c'est cette liturgie céleste déjà, celle qui chante l'Alléluia au Seigneur. Et d'autre part, il faut aussi souligner que cet Alléluia dans la liturgie juive, notamment le repas de Pâques, donc qui est quand même pour nous l'occasion de l'institution de l'Eucharistie, donc c'est important. On chantait beaucoup les Alléluia, et toujours d'ailleurs, dans la liturgie juive, encore aujourd'hui, et on chantait notamment ce qu'on appelle les psaumes du Hallel, donc qui sont les psaumes 112 à 117. Regardez dans votre Bible, peut-être pas les lire, sinon on n'a pas le temps. Et donc, on chantait avec des Alléluia. Et donc, cette liturgie de Pâques juive qui signifiait, vous vous souvenez, la sortie d'Égypte, où l'agneau a été immolé, le sang de l'agneau qui a été mis sur le montant et le linteau des portes, donc a épargné la vie des premiers-nés des Hébreux, et ce qui a fléchi le Pharaon pour qu'il laisse les Hébreux finalement sortir d'Égypte, vous connaissez la suite, et donc c'est la libération de l'esclavage d'Égypte pour aller vers le pays de la liberté. Et donc ça signifie ce chemin que nous accomplissons vers la terre promise, et pour nous la terre promise, évidemment c'est plus Canaan, mais c'est le ciel, c'est le paradis. Voilà. Et cet usage des psaumes du Hallel, des repas de Pâques, dans l'église primitive qui était largement judéo-chrétienne, il est passé chez les chrétiens, dans ce qu'on appelait les agapes, qui entouraient à l'origine la messe. Et cet usage est sûrement demeuré donc, dans la liturgie. En tout cas, pour nous latins, l'Alléluia, il est déjà présent au 5e siècle à Rome. On chante déjà l'Alléluia, bon, l'Évangile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, chose déjà très ancienne. Voilà pour l'Alléluia. Donc, nous continuons sur le Sanctus. Alors, 6.3, Isaïe 6.3. Donc là, on va entendre un texte qui est important, qui est dans le cadre de la vocation du prophète de Isaïe, pardon. Et Isaïe qui donc, a cette vision un peu du Seigneur, je ne sais pas trop comment dire ça, en tout cas, cette révélation intérieure de sa mission, de son appel, sa vocation comme prophète.
Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé, sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. »
Voilà, cette vision grandiose, extraordinaire d'Isaïe, qu'on retrouve aussi dans Apocalypse 4, 8.
Les quatre vivants, portant chacun six ailes, sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit « Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il était, il est et il vient. »
Voilà. Et nous, pour nous les chrétiens, évidemment, ce triple sanctus d'Isaïe, repris dans l'Apocalypse, il dit à la fois l'unité de Dieu, « Saint, 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 Dieu de l'univers, Dieu est un, Deus », mais il est trois fois saint, sanctus, dans les trois personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est pour nous une confession de notre foi trinitaire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Sabaoth ? Donc on dit Deus, Deus, Sabaoth. Comment on dit ? Saint, Seigneur, Dieu de l'univers. Voilà. Mais on ne traduit pas tout à fait littéralement. En fait, ça veut dire Dieu des armées, sous-entendu des armées célestes. Des anges et toute la création invisible, c'est ça l'idée. Donc Sabaoth, en grec, en latin, ils ont gardé le terme, Deus Sabaoth, donc c'est l'armée, les armées célestes. Et puis, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de louange. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Hosanna, ça veut dire littéralement donne le salut. Donne le salut. On invoque Dieu, on demande « Donne-nous le salut par ton Fils. » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça, c'est Matthieu 21:9. Peut-être pas la peine de le dire, mais vous pourrez le retrouver. Qui est donc l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'entrée messianique, qu'on célèbre aussi au jour des Rameaux, et on reprend donc cette antienne. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et donc ça, c'est un ajout. Le Sanctus est apparu au IVe siècle en Orient. Il est rapidement venu en Occident. Mais en Occident, on a ajouté au VIe siècle, d'abord en Gaule, le Benedictus, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux », en reprenant donc cette invocation, cette acclamation des foules quand Jésus est rentré à Jérusalem, mais aussi qui nous est une invitation à acclamer Jésus qui vient sur l'autel, dans la consécration et qui va se rendre présent au milieu de nous. C'est ça l'idée. Et puis, donc ce Benedictus qui est de Gaulle au VIe siècle est passé à Rome et puis il est parti aussi en Orient. Donc les Orientaux nous ont donné le Sanctus, mais on leur a donné le Benedictus, si vous voulez parler. Et même, il y a eu pendant un temps, l'Église autorisait, autrefois, en fait, qu'on prenne Sanctus au moment où on le fait habituellement, après la préface et avant le début de l'anaphore, donc de la. Qu'on appelle donc la prière eucharistique. Donc on prenait ce Sanctus et dans certaines formes liturgiques, on pouvait prendre après la consécration le Benedictus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Voilà. C'était une formule, voilà. Je crois que même dans Saint Pie V, c'était possible. Voilà. Donc vous voyez, c'est voilà. C'était le Sanctus.
Je peux rajouter.
Oui.
En parcourant la Bible, en fait, le Hosanna aussi est présent dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21 parce que ça cite le psaume 117. Et là, dans la traduction, en fait, Hosanna, c'est traduit « De grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. »
Merci.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le Sanctus, donc c'est normalement, à l'origine, c'est la seule partie que le peuple dit. D'habitude, c'est le prêtre qui prie une personne à Christi, et puis le peuple, lui, intervient à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il dit ? Il s'unit aux anges, Saint, 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 Isaïe, et après, il fait le chant, enfin le chant des rameaux, qui dit, Jésus entre à Jérusalem, va à l'autel, sauve-nous, le mystère pascal qui va être actualisé, et sauve-nous. Donc c'est intéressant de voir que cette intervention est très très forte, il y a une portée très très forte dans cette acclamation, pour s'unir à ce qui va se passer.
Voilà. Bien, et nous finissons par la News Dei, dans les temps. Il y a tout un passage que vous pourriez lire à ce sujet, mais ça va être un peu long, c'est dans l'Exode 12, versets 1 à 15, qui est l'institution de la Pâque, voilà, et qui raconte ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement, sur l'agneau de Dieu immolé, l'agneau plutôt immolé, pas l'agneau de Dieu, enfin c'est bien l'agneau de Dieu si on veut, mais en tout cas l'agneau immolé et donc dont le sang, comme je vous le disais, mis sur les montants, le linteau des portes, sauf les premiers-nés des Hébreux. Et donc cet agneau pascal qui est aussi consommé par ceux qui sont là, et il n'en reste rien, ça c'est important, il n'en reste rien à la fin, parce que ce qui n'a pas été mangé doit être brûlé. Et donc ce qu'on appelle un sacrifice d'holocauste, tout est brûlé, c'est ce que veut dire holocauste littéralement. Tout est brûlé, tout est consommé, la victime est complètement consommée. Et c'est donc, Jésus s'inscrit dans cette perspective en instituant l'Eucharistie au moment de la célébration de la fête de la Pâque par les Juifs. Jésus, en fait, s'inscrit dans cet élan, dans cette symbolique, mais lui, ça ne va pas être que symbolique, puisque l'agneau véritable, il l'est, en livrant sa vie pour nous le lendemain, le vendredi saint, en mourant sur la croix. Voilà. Et ce qui donne aussi l'interprétation de ça, c'est Isaïe 53, verset 7, ce qu'on appelle les chants du serviteur. C'est une vision messianique de l'Ancien Testament, un peu particulière, qui est dans Isaïe, il y a quatre chants du serviteur, qui disent que le Messie attendu va s'immoler pour nous et porte nos péchés, porte les péchés du peuple, et comme un agneau conduit à l'abattoir.
Tous comme des moutons nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche.
Voilà, c'est un texte qu'on reprend pendant la semaine sainte, hein, je crois le vendredi saint, il me semble, non ? Il était le vendredi saint, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, pendant la semaine sainte, je suis sûr qu'il y a un moment ou l'autre, on le prend, je crois que c'est le vendredi saint, je crois, bien sûr. Mais en tout cas, pour nous, Jésus s'est identifié à cet agneau pascal, il est le nouvel agneau pascal, et de manière très étonnante, quand saint Jean, vous regarderez au Jean-Baptiste, dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 36, désigne Jésus à ses disciples qui sont autour de lui, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Un peu étonnant, parce que c'est en fait une vision aussi prophétique de ce que Jésus va accomplir plus tard en donnant sa vie pour nous. Voilà. Et on retrouve aussi donc cet agneau, cette idée de l'agneau de Dieu dans les Actes, au chapitre 8, verset 32. C'est en fait, vous souvenez, le nuque de la reine Candace, et que le diacre Philippe va convertir, et le nuque est en train de lire justement ce passage d'Isaïe, il ne comprend pas bien, et il dit à Philippe, mais explique-moi, qu'est-ce que c'est que cet agneau? Et c'est là où Philippe l'enseigne, et lui dit, bah, tu vois, cet agneau est vraiment venu, c'est le Christ et Jésus que je t'annonce aujourd'hui. Et donc le nuque se convertit, Philippe le baptise. Voilà, donc cet Agnus Dei nous dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, c'est le péché du monde dans l'évangile, mais en réalité, en latin, c'est les péchés du monde. Alors, la traduction, un peu, ça, je vais entrer dans les détails, mais en tout cas, peu importe. Le Seigneur enlève le péché du monde, ça c'est sûr. Et donc, on fait trois invocations, mais en réalité, à l'origine, ces invocations, elles pouvaient être démultipliées. Et ça n'a été fixé. L'Agnus Dei apparaît à fin 7e siècle, et la structure en trois invocations n'est arrivée qu'au 12e siècle. Et le Dona Nobis Pacem est arrivé plus tard, donc la troisième formulation, donne-nous la paix, apparaît au 10e siècle et est généralisée au 12e siècle. Et donc ça s'est fixé peu à peu, mais au moment où nous allons donc communier, au moment de la fraction donc de l'hostie, donc on invoque l'agneau pascal véritable, Jésus, qui est présent sous les saintes espèces, pour qu'il ait pitié de nous au moment où on va le recevoir, et qu'il nous donne sa paix, et sa paix en se livrant à nous en nourriture. Donc cet agnus aussi, c'est important de le garder tel quel, parce qu'on voit combien il est inscrit dans la tradition liturgique, et qu'il nous révèle quelque chose de ce mystère, il nous dit quelque chose de ce mystère de rédemption du Seigneur, et ce Seigneur qui se donne à nous en nourriture dans la Sainte Eucharistie. Et c'est tout.
Donc il faudrait rajouter au niveau des parties fixes... le partie credo. Qui a été rajoutée dans la messe Paul VI,
ah oui,
c'est l'anamnèse.
Absolument. C'est-à-dire
qu'en fait, il y avait dans la parole de consécration que le prêtre dit silencieusement, il dit, il y a un moment, il s'arrête et il dit mystère de la foi. La consécration sur le calice, dans la forme extraordinaire.
La forme extraordinaire,
mystère
voilà.
De la foi, il continue. Et quand ils ont fait la réforme, ils ont souhaité que le peuple de Dieu puisse lui-même faire cette
profession.
Cet étonnement, aussi cette expression d'étonnement et d'action de grâce. Et donc maintenant, mystère de la foi a été déplacé, a été mis après la consécration. Hein, Mysterium Filii. Il est grand le mystère de la foi en français, traduit. Même s'il y a d'autres formules possibles. Et puis après, on fait une anamnèse, c'est-à-dire on rappelle...
Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra, ouais, en gros. Voilà.
Alors, et quelquefois, dans les mauvaises traductions, les chants qui ont été composés, souvent, quand on regarde, ils ont supprimé, il reviendra. La dimension eschatologique. Parce que c'est une dimension qui est hyper, hyper surprenante, enfin... dans notre vie, voilà. C'est l'attente, et c'est là qu'on voit combien la liturgie faut la garder telle quelle, parce que sinon très vite on se l'accommode en fait. Il reviendra, bah oui d'accord, il y aura la fin du monde. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc pour éviter ça, on ne dit plus, il est là. Et il y a certaines acclamations qui disent il est là. Et c'est dommage. Il faut toujours dire aussi il viendra, il reviendra dans la gloire. Voilà, voilà. Merci.
Oui, il y a des chants aussi comme ça, le chant de l'Avent notamment. Et ce vieux chant, reviendra-t-il marcher sur nos chemins ? Vous connaissez ce chant-là ?